Vous écoutez RTL.
RTL, c'est l'été.
Le Club Jalabert avec Christophe Paco et Laurent Jalabert.
RTL Tour de France 2014.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le Club Jalabert à l'occasion de cette deuxième journée de repos ici à Carcassonne. En gros, chez toi ou presque. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Christophe.
Pas loin de la maison là.
Oui, tout près, oui, c'est vrai.
T'as étendu la pelouse, t'as fait du vélo.
Je suis rentré à la maison hier soir, effectivement. Oui, j'ai fait un peu le jardin ce matin, voilà, et me revoilà.
Et te revoilà jusqu'à 19h, toutes vos questions. 32-10, évidemment, la journée des meilleurs du maillot jaune. Vincenzo Nibali, l'Italien, et des petits Français qui vont bien, notamment les jeunes. Et Bardet et Pinot. Et un invité d'exception, invité de prestige ce soir, le grand patron de ce Tour de France, monsieur Christian Prudhomme. Bonsoir Christian.
Bonsoir Christophe, bonsoir Laurent.
Ravi de vous retrouver dans la Jaja Mobile, dans le camion avec du public qu'on salue. Hein. Bonsoir le public ici à Carcassonne. Merci pour applaudir. On est ravis de vous avoir. On va revenir évidemment sur ce duel franco-français derrière Nibali et Valverde. Les Français monteront-ils sur le podium? C'est l'une des grandes questions de cette soirée. Plus que jamais, vous êtes bien sur RTL.
RTL, le Club Jalabert.
Ah oui, ça doit vous plaire. On s'était vu à la rive à Risoul l'autre jour déjà, Christian Prudhomme, après la montée des Alpes. Vous me disiez, quel bonheur de voir ces Français. Et pas seulement les deux petits, partout nous sommes présents, nous les Français, dans ce Tour de France 2014.
Oui, bien sûr, puisqu'il y a évidemment les trois places de Bardet, Pinot et Perrault pour l'instant, 3, 4, 6, plus Pierre-Roll en dixième. Mais il y a la constance au plus haut niveau, AG2R mondial. AG2R mondial en tête du classement par équipe. Coquard, deuxième au maillot vert. Pinot, quatrième au maillot à pois. Et évidemment, Bardet et Pinot, premier et deuxième au maillot blanc. Plus les victoires d'étape, de Cadri, de Galopin et le maillot jaune de Galopin. Donc, ça veut dire qu'en deux semaines, on a quand même eu des résultats magnifiques. Sans doute au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. J'espérais, moi, je me disais, il y a potentiellement quatre coureurs français qui peuvent faire dans les 10. Et je me disais, il y en aura peut-être deux. Alors, il reste encore une semaine. Mais là, ils sont partis pour faire beaucoup mieux. Et je crois qu'il ne faut surtout pas s'interdire de rêver.
Qu'est-ce que c'est bon, Laurent Jalabert, de retrouver des Français aux avant-postes. On ne fait pas trop franco-français non plus. On ne va pas faire Cranchouillard et Nico Corico tout le temps. Mais c'est bien de retrouver des Français aux avant-postes. Et capable de gagner un tour, qui sait, dans quelques années.
Oui, bien sûr. C'est très, très important même. Puisqu'on dit souvent, quand ça n'est pas le cas, que ça va pas, que le cyclisme français est moribond, que ça marche pas bien. Alors pourquoi, quand ils sont devant, on devrait se taire et faire comme si finalement c'était pas normal? Non, on est ravis bien sûr que les Français soient dans le coup. Le Tour de France, c'est le bac, hein. Il faut le réussir, quoi. Et les Français là sont bons sur ce tour, ils sont même excellents. Un tour quand même particulier, il faut pas non plus l'oublier, parce que Contador et Froome ont quitté la course sur blessure. Donc ça éclaircit un peu le panorama, ça laisse davantage d'opportunités à d'autres. Mais même avec Froome et Contador, je crois qu'ils auraient été là.
Ouais, ça vous a inquiété, Christian Prudhomme, de ne pas les voir
5-6.
De voir un Tour de France plus mièvre, avec l'absence quand même de Contador, de Froome, sans parler de Schleck, hein, ancien vainqueur du Tour, ça faisait beaucoup.
Non, pas du tout, parce que la course a été dense tous les jours, parce qu'il s'est passé tant de choses inattendues. Est-ce que l'un d'entre nous aurait pu imaginer un scénario pareil sur les 15 premiers jours? Bien sûr que non. Donc,
mais c'est votre faute, vous faites un parcours très nerveux, très piégeux.
L'esprit du parcours, c'est exactement le même depuis une douzaine d'années. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Les coureurs magnifient le parcours, attaquent ou n'attaquent pas. C'est l'étape d'hier, ça aurait pu être une étape, voilà, où on aurait pu s'embêter. Mais les conditions atmosphériques font aussi que, et puis ce final insensé.
On rappelle qu'hier, un Bauer a encore pleuré sur la ligne d'arrivée parce qu'il pensait l'avoir avec le champion suisse.
Ah oui.
Il pensait avoir, avec Emmerling, il pensait avoir donc cette victoire d'étape, et ils se sont fait rattraper par le peloton, et une deuxième victoire pour Christophe.
Ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on n'a pas le scénario classique des trois coureurs échappés et repris au dernier moment, sauf hier, mais dans des circonstances tellement dramatiques.
Oh, Elminger, Bauer, ils nous ont fait de la peine hier, incroyable. Ça c'est sûr, ça c'est clair. Laurent Jalabert, mais ça c'est le vélo, c'est comme ça, même à 10 mètres, il faut passer cette fameuse ligne, comme pour Vincenzo Nibali. Il faudra qu'il la passe pour retrouver un Italien vainqueur du Tour de France. On va parler de Nibali dans quelques instants. On va quand même rester sur les petits Français. Leur journée de repos, ça s'est bien passé. Et évidemment, aujourd'hui, ils étaient devant la presse, tous les deux, et Thibaut Pinot et Romain Bardet. Bardet devant, Pinot juste derrière. Il y a 16 secondes d'écart. C'est du Ampli de Poulidor. C'est ce que vous aimez. C'est des combats magnifiques. Christian Prudhomme.
Ce sont des combats magnifiques. Et effectivement, les voir sprinter à Risoul pour une place d'honneur, se dire deux jeunes Français qui sont là, ça, c'était magnifique à voir. Mais ça augure aussi de combats futurs formidables. Parce que dans toutes les interviews qu'ils font, ils ont plutôt tendance à se mettre en retrait, dire oui, là, on veut être évidemment à la meilleure place à la fin du Tour de France. Mais mais on a une carrière derrière qui s'ouvre à nous. Et c'est ce que je crois fondamentalement. Ils sont là, eux, et ceux qui ne sont pas dans le peloton cette année, comme Warren Barguil, ou dans un autre registre, comme Nasser Bouhanni.
Barguil, il a que 21 ans en plus. Voilà, ça c'est la génération 90 qui se bagarre, hein, Laurent Jalabert, avec Bardet et Pinot. On va écouter Thibaut Pinot sur cette saine rivalité, en tout cas entre les deux jeunes coureurs, qui pour l'instant sont séparés, et pour un maillot blanc, et pour une place sur le podium, par 13 petites secondes.
C'est toujours une rivalité, de toute façon on n'était pas dans le même club, on n'était pas du même comité, donc on était juste, on va dire, ensemble en équipe de France. Sinon, sûr, on a toujours été en rivalité, que ce soit en espoir ou même aujourd'hui chez FV2R. Donc, on est français, mais on est aussi adversaires. Au jour d'aujourd'hui, avec 15 secondes d'avance, sur un chrono de 55 bornes, je pense être meilleur que lui. Enfin, j'espère. Donc, après, c'est sûr que les autres, au chrono, me font plus peur. Ouais.
Thibaut Pinot qui pense également au podium. C'est une rivalité, 16 secondes d'avance hein, entre les deux coureurs français, bien 16 des 13 secondes, c'est la différence entre Bardet et Valverde pour la deuxième place, Christian.
Toute petite remarque, il y a un peu de route avant d'arriver au chrono.
Un peu de Pyrénées, non ?
C'est pas sûr que les secondes soient les mêmes dans 3 jours.
Non, mais c'est sûr qu'on peut les. Ils sont pour l'instant bien mesurés tous les deux. Ils étaient au même niveau dans la montagne. On peut se dire qu'ils vont rouler peut-être de conserve jusqu'au bout et que le contre-la-montre pourrait donc les départager, tout comme pour les favoris du tour, hein. Notamment un Valverde qu'on verra ou un TJ. Vanguard Rennes. Réaction également, tout à l'heure, avec Nicolas Georgerot, il y a quelques instants, hein, de Romain Bardet sur cette saine rivalité.
Tout ce que Thibaut fait en montagne, je sais que j'en suis presque capable. Lui, il dit exactement la même chose. Donc voilà, je sais que on court ensemble depuis les jeunes, on se connaît bien, même s'il était plus précoce que moi à un moment. C'était l'objectif premier, c'est le classement général. Après, si on fait 3e ou 4e avec Thibaut, 4e et 5e, je serais quand même satisfait, même si j'ai pas le maillot blanc. Mais bien sûr, je vais faire tout pour faire pour le garder. Voilà, je ne doute pas que la lutte, tout ça, on va être loyal et ça va se faire à la pédale. Donc, il y aura pas. Si j'ai l'impression d'avoir donné tout ce que je pouvais et que je le garde, que je ne le garde pas, il n'y aura pas de regret à avoir. Et la pseudo-rivalité que certains essaient de monter n'affecte en rien cela. Quoi. C'est une émulation positive et ça nous porte un petit peu. Et on sait qu'on peut tous les deux, dans l'avenir, faire des belles choses.
Venez refaire l'étape du jour avec Laurent Jalabert.
Le Club Jalabert sur RTL. Christophe Pacaud.
Et invité ce soir à Carcassonne, Christian Prudhomme avec nous, hein, Laurent Jalabert. On l'a dit, très belle rivalité. Ça va se faire à la pédale. Tu peux décrypter ?
C'est-à-dire que ça va se faire sur le terrain, en costaud. C'est la course qui va en décider. Quoi. Le plus fort sera devant, tout simplement, à la pédale. Voilà, c'est quand ce sont les jambes qui parlent.
Les jambes qui vont parler avec, c'est vrai, Christian Prudhomme, il n'y a pas que le contre-la-montre. Hein.
Non, il y a
trois
route,
grosses étapes. Hein,
trois grandes étapes de montagne. Une très longue, la plus longue du tour, donc demain, qui se termine par le port de Banès, qui est redoutable, puis la plongée sur Luchon. Et ensuite, deux étapes que nous avons voulu avec Thierry Gouvenou, très courtes. Celle de Saint-Gaudens à Saint-Rémy-Soulan, c'est 80 derniers kilomètres avec quatre cols, ça monte, ça descend, il n'y a absolument pas de vallée. Et la dernière ascension, celle de Saint-Lary-Pladadet, est l'une des plus exigeantes des Pyrénées. Hein. Souvenons-nous de la victoire de Raymond Poulidor en 74 face à Eddy Merckx. Et puis, pour finir, Pau Hautacam par le Tourmalet, excusez du peu, et la montée vers Hautacam qui est elle aussi redoutable.
Les Français sont là, on l'a dit, au rendez-vous de ce Tour de France 2014. C'est une génération, on en parlait avec Laurent Jalabert dans le club il n'y a pas si longtemps, une génération peut-être décomplexée aujourd'hui aussi, Christian Prudhomme, qui a réussi quelque part éloigné ses fameux fantômes du passé.
Je ne sais pas s'ils sont décomplexés, désinhibés, ou si tout simplement ils n'ont jamais été complexés. Je pense que c'est plutôt ça, c'est une autre génération, ils arrivent sans a priori. Et ils sont bons, et ils sont forts, et ils vont le montrer.
Ouais, ils vont le montrer. On arrive maintenant, avec cette génération-là, à oublier un petit peu tout ce qui s'est passé avec le dopage. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut se dire aujourd'hui, qu'on assiste à une arrivée des jeunes de 90 qui sont passés après une génération qui a été complètement oubliée, complètement zappée ?
Je pense que les gens commencent à se dire et à comprendre que ces coureurs-là étaient des tout petits gamins, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé. C'est pour eux, c'était un autre monde, tout simplement. Donc, ce sont des sportifs de très haut niveau dans la plus grande course cycliste du monde et qui essayent d'avoir la meilleure place possible en ayant, en plus d'une force physique remarquable, la tête froide et beaucoup d'intelligence.
Beaucoup d'intelligence de la part de ces coureurs. Tu l'as remarqué, Laurent Jalabert aussi, Romain Bardet. On le disait l'autre jour ensemble dans le club Jalabert, ils sont décomplexés. Ces jeunes-là ont oublié. Ils savent même pas ce qui s'est passé. Ils le savent, ils l'ont lu évidemment, mais ils n'y pensent plus aujourd'hui. C'est pour ça que la place est nette pour eux.
Ça fait partie de leur quotidien. Hein. Encore ce matin, il y a eu des contrôles inopinés sur le Tour de France, comme il y en a beaucoup. Jour de repos où ils pouvaient espérer faire la grasse matinée, ils ont été réveillés de bonne heure. Et ils acceptent volontiers parce que c'est pour mieux vivre encore leur passion. Donc voilà, je crois que tout simplement que ça fait partie de leur quotidien. Ils ont grandi comme ça, avec un sport qui a été chahuté, qui a rangé ses vieux démons, qui a fait ce qu'il fallait pour nettoyer devant sa porte. Et qui aujourd'hui mérite le respect qu'on lui doit, tout simplement, parce que c'est un sport difficile, ingrat, qui demande beaucoup de sacrifices. Et vous savez, que ce soit les coureurs d'aujourd'hui ou d'avant, pédaler sur un vélo, c'est toujours aussi difficile. L'école, c'est les mêmes. C'est toujours aussi compliqué. Les générations sont différentes, certes, mais c'est un sport qui reste magnifique.
Hein. On le sait, j'ai même vu Thomas Voeckler sur une petite vidéo aujourd'hui circuler sur les réseaux sociaux. C'est parce que j'ai vu Christian Prudhomme où il se dispute avec un coureur. Il dit « Oh, t'as déjà fait du vélo ? C'est dur. » Ce qui se fait un peu chambrer.
Ma fille l'a peut-être vu, mais ouais.
Génération Twitter. Mais les spectres du dopage peuvent toujours revenir. Ludovic van de Kerckhove, tu étais tout à l'heure à la conférence de presse d'Astana, justement. Et le patron, c'est un patron controversé dans l'histoire du Tour de France, Alexandre Vinokourov, évidemment, était la cible. Bonsoir Ludo.
Bonsoir.
Pas mal de questions à ce sujet.
Évidemment, le patron qui était contrôlé positif aux transfusions sanguines sur le Tour en 2007, Alexandre Vinokourov, effectivement, qui a dû répondre à deux questions, pas plus, lors de la conférence de presse qui a duré une demi-heure.
2007, l'histoire s'est passée, on est fini, deux ans, je vais rester dehors. Bon, j'ai fermé ma bouche parce que bon, on sait qu'est-ce qui s'est passé. Bon, après, j'ai revenu, j'ai montré l'image, j'ai gagné après beaucoup de courses. C'est ça mon réponse à toutes les questions. Mais après, c'est obligé qu'il y ait un vainqueur quand même sur le tour. Si demain, il y a un Français qui gagne, je pose les questions, les mêmes questions. On a déjà tous les règlements, UCI, MPSC, qui ça passe toujours, c'est énervé quand il arrive 6-7 heures du matin. Il y a deux contrôles d'UCI, mais il y a encore de MPSC qui est derrière. Mais bon, on a signé ce règlement. Après, il y a du laboratoire extérieur qui vient faire toujours les contrôles sur les stages, etc. Bon, qu'est-ce que tu peux faire de plus ?
Il faut appliquer, il faut surveiller tous ces contrôles. Tu disais ce matin, il y en a eu encore, hein, Laurent Jalabert. On relâche pas le combat.
Non, surtout pas, mais je crois que j'emploierai la formule qui est celle de Roger Leger avec le MPCC. Il faut garder la lumière allumée. Quelle que soit la discipline, quel que soit le sport, la triche, c'est l'être humain. C'est pas simplement le sport, c'est partout, dans tous les domaines de la vie. Il y a des gens très bien partout, il y a d'autres qui sont un peu moins bien partout. C'est comme ça. Et pour reprendre ce que disait Laurent tout à l'heure, il faut plus ostraciser le cyclisme. Il a triché, il a fait des erreurs, il a fait des fautes, mais ça va maintenant, quoi. Il a fait le boulot.
On est d'accord, mais Vincenzo Nibali, par exemple, a un patron qui était celui de Pantani en 98 quand il a gagné.
Bien sûr, et on ne peut pas l'oublier, je ne peux certainement pas l'oublier. La réponse qu'il a faite à Ludovic il y a un instant est une réponse qui me semble être pertinente. Effectivement, pendant deux ans, il a dû payer ses erreurs. Et depuis, qu'est-ce qu'il y a eu ? Le passeport biologique, des contrôles de plus en plus serrés, une vraie entente entre l'Union cycliste internationale, l'Agence mondiale antidopage, l'Agence française de lutte contre le dopage qui travaille désormais vraiment de concert. Il y avait même l'Agence britannique antidopage lors des trois premiers jours en Angleterre. J'étais au mois de juin à une réunion du Conseil du cyclisme professionnel avec le président Brian Cookson. Thomas Barr, le président du CIO, la réunion avait lieu à Lausanne, est venu nous parler. Je ne pense pas que ça aurait pu se passer il y a quelques années. Ça veut dire que ça va mieux. Et ils sont donc soumis à de très nombreux contrôles. Et pour ce qui concerne Astana, effectivement, il ne faut pas simplement se dire si ce sont des Français, il n'y a aucun problème. Et si ce ne sont pas des Français, il y a des problèmes. Chaque pays a fait ça, après l'affaire Fessina. Et si tous les pays avaient réagi de la même manière, on s'en serait sorti bien plus tôt.
On n'oublie pas que Nibali, donc, pour être aussi également le premier vainqueur italien du Tour depuis 98, hein, depuis Pantani, avec un directeur sportif aujourd'hui qui est quand même Giuseppe Martinelli, qui est le patron de cette équipe Astana aujourd'hui.
Oui, sur l'Italie, ce qui est d'ailleurs fou pour un pays comme l'Italie, de tradition de cycliste, de légende cycliste, c'est de se dire que finalement, à part 65 Gimondi et Pantani 98, il n'y a que deux vainqueurs italiens depuis 1947. Ça paraît fou, mais c'est la réalité.
En tout cas, Nibali qui pourrait égaler aussi pour avoir remporté tous les grands tours.
Ouais.
Les plus grands. Ce serait le sixième. Il y a déjà eu Gimondi, Anquetil, Merckx,
Hinault
et Contador. Je cherchais le cinquième. Voilà. Précision de Nicolas Georgiou qui m'envoie un petit texto juste en ce moment. Il est bon, Nicolas Georgiou. Il est sur la moto RTL. Vincenzo Nibali, sa journée de repos pour conclure. Aujourd'hui à Carcassonne avec vous, Ludovic van de Kerckhove.
Oui, alors lui, c'était près de Béziers dans un château. Il a changé le standing hein, parce qu'il y avait 2 minutes 23 d'avance. La première journée de repos sur Porte, c'était le parking d'un hôtel assez bas de gamme.
Avec
on va
4,37
dire.
À ses châteaux.
Voilà, 4,37 ses châteaux, effectivement. Effectivement, et sous le soleil, ici il pleut sur Carcassonne, il faisait le grand soleil à Béziers.
Ah, je précise simplement que nous faisons en sorte qu'il y ait un équilibre sur les trois semaines du Tour de France entre la qualité des hôtels et par ailleurs la distance par rapport à l'arrivée ou au départ du lendemain. On y veille scrupuleusement.
Et qui passe là, il y a
un équilibre au bout des trois semaines.
Une illustration parfaite. On l'a vérifié lors de ces deux journées de repos, il n'y a pas de doute. Après une conférence de presse où on a entendu des banalités sur les Pyrénées, c'est encore difficile. Je vais essayer de garder le maillot jaune, on va essayer de rester concentré jusqu'au bout. Et puis tiens, à un moment, on s'est dit, mais ça fait deux fois qu'on vient, on ne voit pas la famille, ni la sienne, ni celle des autres coureurs, par rapport aux formations françaises.
Interdit,
on voit souvent les compagnes, les enfants. Et ben non, mais écoutez la réponse de Vincenzo Nibali. Quand on est sur des courses aussi difficiles que le Tour de France, il faut rester concentré. Alors on a le temps le matin, quelques minutes, d'être au téléphone, un petit peu plus longtemps le soir, avec Skype, FaceTime, on a tous les moyens pour communiquer. pour parler avec la petite fille aussi, mon bébé. Mais je veux rester concentré sur la course. C'est 20-22 jours. Après le tour, je rentrerai à la maison. Je serai en vacances.
Elle sera en vacances, oui, c'est bien. Il reste concentré, Laurent Jalbert, c'est important. Hein.
Mais je retrouve tout à fait ce qu'il dit là, parce que c'est vrai quand on est coureur et sur un jour de repos, évidemment, il n'y a pas de course, on a envie de voir les gens que l'on aime. Mais c'est frustrant parce qu'on peut pas leur accorder de temps. Parce que la course est quand même toujours là. Il y a des sollicitations, il y a des obligations. Il faut aller s'entraîner, il faut se reposer, il faut faire une conférence de presse. Et du coup, on les voit pas beaucoup. Et à la fin de la journée, on a une boule au ventre parce qu'on a un peu loupé l'échange avec la famille. Et c'est mieux finalement. Je l'ai vécu aussi. C'est mieux qu'ils ne viennent pas et qu'on puisse vivre une journée normale de repos sur le Tour de France.
Restez concentrés vers un objectif, gagner ce Tour de France 2014. La question du soir pour gagner la musette du Tour de France avec à l'intérieur tous les cadeaux du Tour, estampillé Tour de France, Laurent Jalabert, le bidon du Tour, dans la musette également les t-shirts et peut-être d'ici la fin du Tour, le cadeau...
Une bicyclette.
Tiens donc, mais laquelle ? De Christian Olivier, le chef des sports, bien sûr. Question du soir, combien y a-t-il de cols cette année au programme de ce Tour de France 2014 ? De cols ou d'arrivées en altitude, hein ? Les premières catégories, les deuxièmes, c'est à vous de me le dire. Trois propositions. C'est... Non, tu ne triches pas, Laurent Jalabert, tu me donnes la réponse après, mais hors antenne. 20, 25 ou 30, combien y a-t-il de cols ou d'arrivées en altitude cette saison ? Cette année 2014, 20, 25 ou 30, c'est à vous de jouer sur le 32-10. Je sais que vos minutes sont comptées, je vais vous libérer dans un petit instant. Il y a du public, vous voyez, ce soir, ici à Carcassonne. Sous la pluie. On n'a pas été épargné pour la pluie. À l'image du public, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde, énormément de monde dans le Yorkshire, en Angleterre. Et on est un petit peu surpris. On n'a pas vu des Alpes débordantes de supporters, de fans de tout ordre.
Le Yorkshire, c'était en dehors de toute mesure. C'était extraordinaire, c'était phénoménal. Et d'ailleurs, je remarque que c'est sans doute une des premières fois que les gens devant la télé, sur un départ de l'étranger, se disent « Waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le Yorkshire ?» La passion du Tour de France, la passion du vélo. Je ne suis pas très inquiet sur le monde qu'il y aura dans les cols à venir, hein. Pas très inquiet.
C'est vrai, Pyrénées, l'Espagne et tout, ça ira bien.
Les Français aussi, et tous les étrangers qui viennent voir les coureurs du Tour de France.
Je crois, moi, qu'il faut aussi garder les pieds sur terre. Les gens ne tournent pas le dos au Tour de France. Il y a peut-être un peu moins de public à certains endroits, mais peut-être aussi qu'ils partent moins en vacances. Hein.
Tout simplement.
Ça, c'est une réalité d'aujourd'hui, quand même. Mm-hmm. Je pense aussi, oui. Il y a un peu de ça.
Dans le club Jalabert, tu sais que Christian Prudhomme est le patron du Tour. Ça fait quasiment 10 ans qu'il a accompagné Jean-Marie Leblanc. Ça fait 8 ans que vous êtes le patron du Tour, c'est bien
7
ça
ans, 10 ans avec Jean-Marie, 10 ans. 7 ans.
C'est presque un anniversaire. J'ai un petit cadeau pour vous, parce qu'avant d'être directeur du Tour, il était radio reporter, comme on disait à l'époque. Oui, à l'époque. Parce qu'il n'est pas si jeune que ça, quoique, Christian Prudhomme. Non, c'était il y a. Par exemple, 85, il est
c'était
passé par RTL.
Le plus vieux, là, oui.
85 RTL. Écoutez le jeune Christian Prudhomme.
Christian Prudhomme.
Je n'ai rien aux jambes, c'est l'essentiel. Voilà ce qu'affirmait hier Bernard Hinault après sa chute. Mais tout le monde s'interroge. Hinault pourra-t-il tenir ? Pourra-t-il conserver son maillot jaune ? On peut craindre pour le Breton que ses adversaires ne se sentent soudain des fourmis dans les jambes. En 68, Raymond Poulidor, en posture de gagner le Tour de France, avait lui aussi lourdement chuté. Il souffrait, comme Hinault, d'une fracture du nez. Le temps avait tourné à l'orage. Poulidor avait dû abandonner. Il rappelait que chaque goutte d'eau sur son nez, c'était comme une piqûre de guêpe. Alors il faut souhaiter pour Hinault que le soleil continue de briller sur la route du Tour.
La route du Tour, Christian Prudhomme.
Il avait donc gagné 85.
Bon petit souvenir.
C'est bien fois. C'est sympa, merci.
De rien, merci Christian Prudhomme.
Ils sont tous en train de rire, vous ne les voyez pas. Ils sont tous autour. Merci. C'est très sympa, effectivement, c'était mon premier stage à RTL en sortant de l'école de journalisme.
Merci beaucoup, sous les ordres de Christian Olivier que je vois là derrière, Guy Kedia aussi qui était là à l'époque. 85 évidemment, et un petit merci, un coucou à l'efficacité de notre service archive.
Merci à vous.
Avec Chantal Gramin et Théo, merci. Christian Prudhomme, bonne fin de tour. À dimanche prochain sur les Champs-Élysées pour un bilan, évidemment avec nous, avec Laurent Jalabert. Il est 18h50, dans un instant vos appels sur le 3210, toutes vos questions à Laurent Jalabert.
RTL, toujours avec vous.
Posez toutes vos questions à Laurent Jalabert au 3210.
Le Club Jalabert sur RTL. Christophe Pacaud.
Comme tous les soirs jusqu'à 19h, toutes vos questions, les réponses de Laurent Jalabert ce soir sous la pluie à Carcassonne. Et heureusement, le public est là avec nous ce soir. Vous pouvez vous applaudir parce que vraiment, vous êtes superbes de rester sous la pluie. Mettrez une petite tente, hein, l'équipe technique là. Merci la prochaine fois. Marie-Bonne est avec nous. Du place de Carcassonne en plus. Vous auriez pu venir nous voir, Marie-Bonne. Bonsoir à vous.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. C'est vrai, je suis de Carcassonne. Je voudrais poser une question à Laurent. Bonsoir, je suis très satisfaite des places qu'occupent deux Français, Romain Bardet et Jean-Christophe Perrault, troisième et sixième au général. Mais bon, ce sont deux leaders de la même équipe d'AG2R. Et est-ce qu'en un moment, ça ne va pas créer une rivalité malsaine parce que leurs chemins vont quand même se séparer pour essayer d'arriver par une performance individuelle? Et là, on oublie le côté de travail équipe, de collectif.
Ça, c'est le rôle, c'est une question pertinente, hein, mais c'est le rôle du manager de l'équipe, justement, de bien mettre les choses au clair en amont, hein, de savoir qui est le leader, et je sais pas si les rôles ont été clairement définis.
Tu veux qu'on écoute Vincent Lavenue, peut-être, le patron?
Tiens, ce serait pas mal, oui.
Comme ça, on va se faire une idée ensemble avec Marie-Bonne et vous sur le 3210, vous, auditeur d'RTL.
Ensuite.
Et après, on va répondre à la question clairement, évidemment, à Marie-Bonne. On va écouter la sensation, pour l'instant, de Vincent Lavenue, le patron d'AG2R, devant Nicolas Georgeau, il y a quelques instants. Y aura-t-il une rivalité entre Bardet et Perrault?
On verra, c'est encore une fois le terrain qui va décider. Aujourd'hui, on n'a pas de choix à faire, c'est pas nous qui avons le maillot. On est là à l'affût. Évidemment, on est comme les adversaires, on veut le podium, maintenant qu'on y est et qu'on n'est pas très loin de Paris. Les choix, si on doit les faire sur le terrain, on le fera, en fonction des circonstances, en fonction de la forme du coureur du moment. On a des coureurs qui sont tout à fait justement dans cette philosophie-là, des garçons qui sont simples, justement, qui sont des gens honnêtes intellectuellement. Ce sont des grands athlètes. Voilà, pour nous, c'est pas compliqué, on n'a rien de compliqué, on se prend pas la tête, tout va bien, les voyants sont ouverts et voilà, je suis assez serein quant à la philosophie de ces coureurs-là. Donc, si à un moment donné, il y en a un des deux qui est moins bien, il le dira à l'autre sans souci.
Dire à l'autre sans souci. C'est l'aîné sur le 4D, comment ça va se passer? C'est compliqué. Hein
Le truc, c'est pas de dire au petit copain je suis moins bien, c'est de dire je me sacrifie pour toi. Ça, c'est plus difficile. Hein. Parce que je suis pas bien, c'est pas dur de le dire. Je suis pas bien, je peux pas rouler, je suis pas bien. Ouais. Non, c'est plus dur de dire écoute, je me sens pas super, je me sacrifie pour toi. Hein. Aujourd'hui, j'explose. Je sais pas, on verra, hein. Je souhaite qu'ils puissent être bien tous les deux, de toute façon. Et puis c'est toujours mieux d'en avoir deux dans le coup que d'en avoir aucun.
Oui.
Pour commencer. Donc, c'est un bon problème, ça. Hein. Quand on a deux garçons dans les 10 premiers, c'est déjà un bon problème.
On peut pas dire qu'il y en a un qui a 37 ans, il faut lui faire cadeau, et Romain Bardet qui a 23.
Non, il y a pas de cadeau.
Non, je pose une question naïvement.
Pour tous les deux, c'est une belle opportunité. Parce que des occasions comme cette année, je dis pas qu'il y en aura pas d'autres. Mais avec les deux grands favoris du tour absents qui ont quitté la course sur une chute, sur blessure, ça n'arrivera pas tous les ans, c'est évident. Alors Bardet jeune, il aura plein d'occasions certainement, mais peut-être pas.
Peut-être pas.
Moi, à 22 ans, j'ai failli être champion du monde, mais j'ai jamais eu une autre occasion aussi franche. J'ai été battu par Bougnot, je fais deux. Jamais je suis arrivé pour la gagne ensuite, et j'étais pourtant souvent le favori. Donc les occasions, quand on les a, il faut les saisir. Et un garçon comme Perrault, c'est une occasion comme celle-là, il n'y en aura pas d'autre. Hein. C'est la dernière. C'est la première, et c'est certainement la dernière. Donc
il a
6-0, va se sacrifier, il le fera que s'il n'a pas le choix. Moi, je crois que c'est certainement celui qui a les meilleures chances d'être sur le podium parce qu'il a en plus l'atout de rouler vite contre la montre.
Merci à Marie-Vonne de Carcassonne d'avoir été avec nous pour cette première question. Deuxième question, Marie-Claude de Roanne avec nous. Bonsoir, Marie-Claude.
Bonsoir Laurent, bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Alors ma question, c'était, est-ce que vous pensez que l'équipe Europcar va lancer des coureurs en avant dans les Pyrénées pour aider Pierre Roland à remonter dans le classement un peu plus tard? Est-ce que Pierre Roland a encore les capacités de pouvoir remonter dans le classement?
Remonter, oui. Le plus important, c'est qu'il retrouve un peu de fraîcheur. Et c'est, je crois, ce qui lui manque. C'est pas l'ambition, c'est pas la classe, le talent. Pierre Roland, c'est un excellent coureur. Lui aussi, il est jeune. Hein. On le dit pas, mais 26 ans, 27 ans, ça reste un jeune coureur quand même. Quatrième du Tour d'Italie cette année. Il manque un petit peu de fraîcheur maintenant, alors qu'on arrive en troisième semaine du Tour. Et ça, c'est un peu dommage. Mais bon, il a fait le Giro avant, c'est comme ça. Est-ce que son équipe a les moyens de lancer une offensive? Bon, de loin, oui, avec Vauclair, par exemple, dans les Pyrénées. Vauclair va vouloir briller sur le Tour. Mais peut-être pour lui d'abord, hein, pour essayer de repartir d'un Tour de France avec quelque chose de gagner, avec un sentiment positif, ce qui, pour l'instant, n'est pas le cas. Et le concernant, ça doit être difficile à vivre. Mais pour un garçon comme Pierre Roland, il est à 10 minutes 46 au classement général, il est 10e. Il a donc une marge de manœuvre. Lui attaquera plus facilement de loin que Pinot ou Bardet, qui sont tout près du maillot jaune quand même, et donc qui représentent une menace plus directe.
18h57. Combien de cols ou d'arrivées en altitude, Laurent Jalabert? 20, 25 ou 30? C'était 25,
beaucoup,
la bonne réponse.
Beaucoup.
25, hein. Et ça repart demain, évidemment, dans les Pyrénées. La plus rapide au 32-10 a été Anne-Marie de Pontigny, qui gagne la musette habituelle du Tour de France, comme tous les soirs, on fait ses cadeaux sur RTL dans le Club Jalabert. Et pour terminer, ce Club Jalabert en direct de Carcassonne, question rapide, s'il vous plaît, réponse rapide de Laurent Jalabert. Je crois que c'est Jean, hein, qui arrive de Monceau-les-Leux sur le standard, sur le 32-10. Bonsoir à vous, Jean.
Bonsoir Christophe, bonsoir le Jean, enfin Monsieur Jalabert, pardon.
Bonsoir Jean.
Eh ben voilà, est-ce que le nombre de chutes qu'il y a actuellement et le nombre d'abandons qui s'en suivent, est-ce que ça n'est pas justement le signe que les coureurs ne sont plus dopés et que ils ne peuvent plus aller artificiellement au-delà de leur force?
Réponse Laurent.
Il n'y a pas eu beaucoup d'abandons. Hein. Il y a encore 171 coureurs en course. Il y a eu 27 abandons.
Ouais, 27, ouais,
c'est pas beaucoup.
Calculé, ouais.
En deux semaines.
Non, mais beaucoup de chutes spectaculaires, c'est pour ça, Laurent.
Oui, beaucoup
et
de chutes, mais parce que du mauvais temps, parce que le matériel a évolué, il est très rigide, on fait beaucoup les roues, il y a du stress. Non, je crois que ça n'a pas de relation. Il ne faut pas non plus chercher toujours des explications. Là, il n'y en a pas.
Ouais. Même le matériel, non, pas spécialement, trop
ça
léger.
Ça roule pas moins vite, ça roule pas plus vite. Le matériel est plus rigide, il est plus léger. Et du coup, peut-être un peu plus dangereux aussi. Voilà, c'est les enjeux, c'est l'obligation d'être devant tous en même temps qui fait qu'il n'y a pas la place pour tous et ça tombe souvent.
Merci Laurent Jalabert. À demain sur la route du Tour. Attention, ça part tôt. Hein. À 11h de Carcassonne, direction Bagnères-de-Luchon. 237 500 km, le port de Balès, l'arrive à Bagnères. Ça monte. Première des trois étapes pyrénéennes. À demain, Laurent, sur la route du Tour.
À demain.
Et dans le Club Jalabert. Merci au public de Carcassonne. À demain sur RTL.
RTL, le Club Jalabert.